chaîne plus tard pour qu'elle lui fasse un gros câlin. Qu'elle le prenne entre ses bras et qu'elle lui donne ce qu'il n'a pas. Mais elle lui réclame un supplément, alors il compte son argent. Et comme il n'en a pas assez, faut bien qu'il aille voir à côté. Saint-Denis, 11h du soir, l'amputé va s'acheter des clopes au bar tabac, près du boulevard. Mais en passant devant le sex shop, il voit une pancarte en vitrine, entrée interdite aux manchots. Alors il se fait une cabine pour la séance. Il dit en lâchant ses béquilles. Sois ma putain si tu veux bien, ça me fera un gros câlin. Tu me prendras entre tes bras pour me donner ce que j'ai pas. Si tu réclames un supplément, je te donnerai tout mon argent. Mais j'en ai assez de marchander. Allez, passons dans la pièce à côté. Saint-Denis, quand minuit sonne, retentit un cri d'agonie. Les flics prévenus par téléphone arrivent dans la minute qui suit. Mais les poulets, pourtant coriaces, frémissent en voyant le spectacle. Le spectacle est sur la poufiasse qui s'offre à eux dans l'habitacle. Car amputé, pris de démence, a plongé jusqu'à la ceinture. Pour mieux répandre sa semence à l'intérieur, la créature. Elle en plus sort de ta putain et peut plus faire de câlin. Ni te donner ce que tu n'as pas en te prenant dans ses bras. On va te conduire en prison pour que ça te serve de leçon. Tu auras le temps de méditer sur le malheur des amputés. Saint-Denis, quand minuit sonne.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
What's it to you? There There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Chaque seconde, celle où je vis encore. Au fond des grands déserts, au bout de ces nuits rouges, dans ce vent de poussière, quand rien d'autre ne bouge. Le long des longues routes qui m'emmènent là-bas, où je fuis, où je doute, à chacun de mes pas. Tu ne seras pas là, pourtant tu y seras. Toujours un peu de toi, dans tous mes mots d'amour. Toujours un peu de toi. Même là où tu n'es pas, toujours un peu de toi, dans tous mes mots d'amour, je parle encore de toi, wow, oh, et encore, et toujours, et encore, toujours un peu de toi, dans mes rêves d'amour, je vis encore de toi. s'achève, qui m'éloigne de toi. Et pourtant, dans mes rêves, tu ne t'effaces pas. Toujours un peu de toi.
Ça jase au comptoir, oh là là là, quelle histoire pitoyable, oh Rosalie, pourquoi diable? Le diable a montré sa queue, mort de moi qui n'avais que l'envie de vous embrasser. Me voilà bien avancé. Tout cela ne fut qu'un jeu, sous votre robe si je ne vous avais trouvé nu, je jure jamais, jamais. Pousser à mon avantage ce piteux enfantillage, ce tango, un brin corsé, nous voilà bien avancés, nous voilà bien avancés. Le mal étant déjà fait, ayant du champagne au frais, je n'ai pas cru maladroit de vous en offrir un doigt. Mais ce fut le drame quand, dans votre cou entrinquant, la coupe fut renversée. Nous étions bien avancés. Nous n'étions pas encore sous vos dessus et vos dessous s'empilèrent à vue d'œil au bras de votre fauteuil. On mit le tout et mon jean à laver dans la machine et rien pour le repasser. Nous étions bien avancés. Le temps que nos fringues sèchent, j'avais la gorge un peu sèche et plus de veuve Clicquot. Je proposais un tango. Sans vous flatter, Rosalie, je crois que c'est dans mon lit qu'il fut le mieux cadencé. Nous voilà bien avancés. Ainsi l'aube délia dans l'embarras de leurs draps. De bien étranges danseurs au pied d'un vieil ascenseur. Et c'est sur l'air en sourdine d'une musique argentine qu'ils se sont désenlacés. Ils étaient bien avancés. Ils étaient bien avancés. De faux oublis, je vous revis, Rosalie. Votre ventre était gonflé, presque autant que le soufflet d'un joueur de bandoneon, et vous cherchiez un prénom, confusé, les yeux baissés. Vous étiez bien avancé. À votre papa demain, en demandant votre main, J'avouerai, je suis méchant, je n'ai ni cœur.
La musique
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
nan 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 nan
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde, à Tours, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui Sarah Benaïm. Très très heureux de te recevoir, Sarah. Très heureux pour plein de raisons, et puis notamment parce qu'on va parler de musique que moi qui me tiennent à cœur, de musique noise et tout ça. Va falloir qu'on explicite. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Salut Christophe, ravi d'être là aussi sur le plateau de Radio Libertaire. Alors là, on vient d'écouter donc les 6 premières minutes d'une pièce de DJ Fusillé qui donc s'appelle Sacrilège Vénération et qui est en fait c'est les archives du bruit. Et donc, en réalité, ce sont les 6 premières minutes de la pièce qui est présente dans le CD du livre. Et donc, qui vient de sortir chez Art de Rien, là, en 2023. Donc, il y a certains extraits dans ces 6 premières minutes. Alors, j'ai plus tous les noms en tête, mais il y a Damien Schulz, Laurent Dibiaz, Opéra Mort, notamment, que j'ai reconnu. Mais je ne pourrais pas tous te les citer, puisque, bah, du coup, comme... c'est un mix de pièces, enfin, c'est DJ Fusillé, voilà, je ne les ai pas forcément tous en tête, mais on retrouve la liste en tout cas à la fin du livre pour la pièce au complet.
Oui, voilà. Ouais, ouais. Et alors, avant de commencer, peut-être il faut nous dire quelle est ta formation. Es-tu... Alors moi, par exemple, je ne sais pas si tu es musicologue, sociologue, dans quel domaine de sciences sociales peut-être tu agis. Peut-être les deux, je ne sais pas.
Ouais, les deux. En fait, alors effectivement, je suis maîtresse de conférence à Tours en musicologie, donc c'est la musicologie que j'enseigne. Mais dans mon travail universitaire, il y a une grosse empreinte des sciences sociales et en particulier de la sociologie. Et donc mon travail repose quand même largement sur l'enquête de terrain et l'ethnographie, donc plus que sur les analyses d'œuvres musicales finalement.
Ah oui, oui, mais est-ce que tu es musicologue ?
Ouais, les deux, et sociologue en même temps, on peut dire, de la musique. Et donc, ouais, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas eu une formation tout à fait conventionnelle, puisque, en réalité, au début de mes études, je venais des arts plastiques en fait. Hein, j'ai fait des beaux-arts, après j'ai fait des études d'esthétique. Après, finalement, voilà, j'ai été à l'EHESS où j'ai commencé à apprendre un peu les sciences sociales, et puis voilà, j'ai un parcours un peu atypique.
Ouais, alors on te reçoit pour un livre qui s'appelle Archives du bruit, c'est même plutôt
des chroniques du bruit.
Chroniques du bruit, ouais. Pardon, chroniques du bruit. Va falloir que tu nous expliques ça aussi, hein. Mais Est-ce que tu as travaillé une... Moi, je me souviens d'avoir vu une... On en a parlé au téléphone, une... je sais pas si c'était une présentation, une conférence, où tu parlais de la musique bruitiste. Et ce que je voulais savoir, c'est... as-tu travaillé sur une thèse? Je crois que tu l'évoques dans ton livre. Quel était l'intitulé de la thèse? Quel était ton sujet de recherche?
Ouais. Alors effectivement, je vais recontextualiser donc ce livre-là qui vient de sortir chez Ardurien. En fait, il s'agit donc des notes de terrain que j'ai réalisées justement dans le cadre de ma thèse, parce qu'effectivement, comme tu disais, donc j'ai fait ma thèse donc que j'ai soutenue en 2018 à l'EHESS. Elle s'appelait donc Aux marges du bruit, une étude de la musique noise et du do it yourself. Et donc, dans le cadre de cette thèse, j'avais fait une enquête de terrain, et donc je l'avais largement fait reposer sur des observations de concerts de la scène parisienne. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le livre, c'est-à-dire que ce sont en fait des notes de terrain brutes. Une sélection, bien sûr, elles sont pas toutes là, mais en fait, ce sont donc ces notes de terrain qui ont constitué, parmi d'autres matériaux, hein, des entretiens, autre chose, mais finalement, mes sources, à partir desquelles j'ai pu élaborer mon travail scientifique.
Ah oui, d'accord. Ouais. Et ben, là, tu réponds à des questions à venir, mais bon. Peut-être il conviendrait, avant tout, puisqu'on va parler de ces musiques-là, on va parler de musique bruitiste, de musique noise, mais bruitiste, c'est un noise, ça veut dire bruit. Nous ne sommes pas entre nous, tu sais, hein, Sarah. Peut-être il faut expliquer à nos auditeurs de quoi on parle quand on parle de musique bruitiste, noise. Tu sais bien que si on parle de bruit, on parle de musique, ça a un aspect péjoratif. Donc en quoi ça peut être bien pour nous, quoi, d'écouter ça, quoi.
Ouais, alors en fait cette question, elle est complexe parce que il y a toute une histoire qu'on peut un peu reconstituer après coup, justement de cette intégration du bruit, et disons voilà, d'un monde sonore plus large à ce qui serait une espèce de catégorie musique qui elle-même est discutée évidemment et est très située. Enfin voilà. Mmh. Et en gros. On parle souvent du futurisme comme premières occurrences en fait, hein, de ce bruitisme, donc voilà, plutôt au début du 20e, etc. Mais vraiment, nous, dans les formes qui nous intéressent plus et qui sont liées voilà, à ces musiques noise, disons qu'on peut plutôt les resituer dans un héritage qui est à la fois celui des musiques d'improvisation libre, des musiques free quand même, et en même temps, en parallèle, de cet héritage de musique industrielle, d'indus. Mmh. Alors, il y a... je ne sais pas dans quelle mesure on peut développer ça ou pas, mais disons que ce qui a été très important, c'est ce mouvement de la fin des années 70 et années 80 au Japon, notamment avec des personnages comme Merzbo, etc., hein, et qui ont vraiment participé à développer aussi ce genre de musique noise, et qui effectivement prend pour matériau musical des sons sonores très diversifiés, puisqu'effectivement là on a des spectres de bruits qui peuvent aller du sinus au bruit blanc, et sur des pièces qui elles-mêmes peuvent avoir d'ailleurs des longueurs très différentes. Mmh. Ça peut être souvent des sets uniques qui peuvent durer, 20 minutes, mais des fois que 5 minutes. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de normes. Ça remet quand même pas mal de conventions en question.
Ouais. Et alors, avant de travailler sur ces musiques, est-ce que toi, tu es spectatrice, j'imagine, de ça avant de. Et voire même initiée.
Ouais.
Je voudrais t'interroger aussi sur ça aussi, le fait d'être initiée. Quoi.
Ouais. Oui, c'est tout à fait juste. Parce que, en fait, le moment où j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors, déjà, j'avais commencé en master avant même d'entamer la thèse, à travailler justement sur la noise. En fait, c'est drôle parce qu'au départ, j'avais fait un premier mémoire de maîtrise sur la musique électroacoustique. Je travaillais à cette époque-là à Radio France. Je faisais le vestiaire, c'était un petit job étudiant. Et en fait, écoute. Et puis un jour, j'étais rentrée comme ça dans la salle, et puis il y avait une pièce de musique acousmatique qui était en train de passer avec l'acousmonium, etc. Et là, il y avait des sons dans tous les sens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Enfin, voilà. Et là, tout à coup, je me suis dit, bon, je veux commencer à travailler là-dessus. Et c'était plutôt en philo à cette époque-là. Mmh. Et en fait, à cette même époque, je fréquentais des concerts de noise dans les squats, parce que c'était beaucoup dans les squats à cette époque-là. Hein. Ça a un peu changé, on pourra peut-être en parler plus tard. Mmh. Et bon, aussi dans les bars, bien sûr, mais aussi pas mal dans les squats. Et en fait, je me suis dit, en réalité, c'est super de travailler sur la musique électroacoustique, mais en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de... Enfin, c'est très institutionnel, en fait. Et donc, du coup, il y a quand même toute une somme de travaux. Alors que, par contre, la noise, ces autres formes musicales que je vois, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien. Il y a un livre en Angleterre de Paul Egarty en esthétique, et en fait, il n'y a rien. Donc, il y a tout un truc là à faire. Et du coup, c'était hyper stimulant, évidemment, parce que là, fallait partir du début. Et puis, pour travailler, pour rentrer vraiment dans ce monde-là. Et en même temps, tu posais cette question-là, j'étais déjà initiée, puisque c'était des concerts que je fréquentais. Donc, j'étais déjà, en quelque sorte, insider, ce qui a évidemment changé... aussi, enfin, ce qui peut changer les choses dans la posture que tu as, justement, dans l'ethnographie, bien sûr. C'est pas la même chose que d'observer un groupe, tu vois.
Alors, c'est justement une question que je me suis posée. Est-ce que Sarah, si elle étudiait la musique baroque, je ne sais quoi, est-ce qu'elle n'aurait pas le... Là, tu es vraiment très impliquée dans l'histoire.
Ouais, parce qu'en plus, j'étais donc spectatrice, dont je connaissais. Alors c'est quand même un petit monde. Alors ça, on reviendra peut-être dessus, parce que dans le livre, ça se ressent, hein, évidemment, qu'il y a quand même un entre-soi. Ouais. Et donc, évidemment, j'étais déjà familière de la musique, mais aussi familière des protagonistes. Hein, ouais. Donc, et puis par ailleurs, je me suis mise à jouer moi-même de la noise dans un trio qui s'appelle DMZ, donc, alors que j'en jouais pas avant. Donc aussi pendant l'enquête, je me suis mise à en jouer, ce qui m'a aussi permis d'avoir d'autres perspectives, tu vois, musicales. Okay. Et puis j'ai aussi collaboré avec Joe du label Tense Process sur une série de live en cassette qu'on a sorti, que j'enregistrais, et donc qui m'ont aussi positionné dans un peu autre chose, avec un rôle un peu de label. Donc effectivement, plusieurs casquettes, ouais.
Ah bah oui. En fait, tu anticipes ma prochaine question. Je voulais savoir en quoi tu étais impliqué, parce que oui, il me semblait bien que tu jouais toi-même.
Ouais, alors du coup, en fait, je jouais plus de musique depuis longtemps. Je jouais un peu de basse au lycée. J'avais joué avant ça même de la flûte pendant longtemps. Mais en fait, j'avais arrêté de jouer de la basse parce que j'avais des soucis de poignet. Et donc, comme je faisais les beaux-arts, je faisais plein d'autres trucs. Donc je faisais de la sculpture, j'écrivais de la poésie. Et puis donc ça va, la musique, ça m'allait très bien de juste l'écouter. Et puis en fait, grâce à ces musiques, et là il y aurait beaucoup de choses à dire, mais justement ce caractère DIY, le fait de pas avoir eu besoin de faire une école de musique ou que sais-je, tu vois, avant, du coup je me suis retrouvée en fait à jouer très facilement dans de l'impro libre. Avec DMZ, et sur de l'électronique, alors que je n'avais jamais joué de musique sur ces dispositifs-là avant. Et donc, ça m'a fait renouer finalement avec, la pratique musicale.
Justement, je me demandais quel dispositif as-tu en tant que musicienne de noise?
Ouais, alors vraiment principalement des synthés, mais ce qui est rigolo, c'est que parmi eux, il y a aussi des synthés DIY qui ont été en fait élaborés par Joe, qui fait aussi partie donc de DMZ, qui tient le label Tense Process, et qui fabrique lui ses propres synthés. Donc en fait, il y a aussi des petites machines fabriquées dont on comprend pas très bien extérieurement le fonctionnement, et c'est ça aussi qui est rigolo. C'est qu'on sait pas exactement quels sons vont sortir quand on n'est pas complètement familier de la machine, qu'on l'a pas conçue nous-mêmes en plus. Mais de toute façon, même quand on conçoit soi-même ce type de machine, il y a quand même parfois un caractère aléatoire qui fait qu'on n'est pas complètement sûr de ce qui va en sortir.
DIY, do it yourself.
Ouais. Hein,
c'est nos amis, nos auditeurs punk, qui sont, je pense, assez nombreux, comprendront. Mais en deux mots, Do It Yourself, c'est quoi?
Ouais. Alors, en fait, c'est un terme qu'on a commencé, en réalité historiquement, tu vois, mais à voir apparaître aux États-Unis, dans un contexte de bricolage, le bricolage à la maison, tu vois. Donc, c'était plutôt les pères de famille dans les banlieues pavillonnaires qui commençaient, en fait, à utiliser ce terme. Bon, donc, on retrouve ça dans la presse, tu vois, dans les années 10, etc. Mmh. Et puis, en fait, par la suite, parce que c'est devenu toute une culture et tout ça, c'est, effectivement, on l'a surtout retrouvé dans le punk, bien évidemment, à l'époque du punk. Alors là, je pense qu'on va pas apprendre grand-chose à nos auditeurs, ouais, et auditrices. Mmh. Mais c'était vraiment cette idée, bah, finalement, prends ta guitare, tu peux jouer trois accords, et puis c'est bon, tu peux te lancer, tu vas lancer ton groupe. Et en fait, avec la noise, c'est au-delà même. T'es même plus obligé de savoir jouer trois accords.
Ah ouais.
Donc, et après, ça dérive effectivement. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'apprentissage musical lui-même, et puis après, il y a toute la dimension DIY qui concerne bien sûr la diffusion et l'organisation, évidemment, des concerts, etc. Puisque on parle de micro-label, donc en fait, on est dans des labels DIY. L'organisation des concerts, c'est une musique qui est pas du tout institutionnel, et donc du coup qui fonctionne par ces réseaux justement DIY, jouer dans des bars, dans des caves, dans des petits lieux. Voilà.
On va écouter DMZ.
Super.
Donc tu joues de quoi dans la...
Électronique.
Ah, t'en diras pas plus. Des synthés, des...
Voilà, les synthés, ouais, comme bon, je disais tout à l'heure. Ouais.
Ok. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Nous sommes à l'écoute, vous êtes à l'écoute, et nous aussi peut-être incidemment, de l'émission Les Oreilles Libres sur la radio des anarchistes. Et puis on parle avec Sarah Benaïm de son livre Chronique du bruit, qui est sorti...
Là, qui vient de sortir chez Art de Rien.
Hier ou aujourd'hui ?
Eh bien écoute, hier il y a eu la soirée de lancement au Baron Rouge, donc c'est tout, tout récent.
Il me semble bien. Là, on vient d'écouter un truc, une musique sur le label Tense Process.
Ouais.
Peut-être tu pourrais nous présenter Tense Process.
Ouais. Alors c'est pas mon label, donc évidemment je le connais pas par cœur non plus. C'est le label de Joe. Il me semble qu'il l'a commencé, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 2003 ou 2006. Donc désolé pour ce manquement sur la date. Mais en tout cas, ça fait déjà assez longtemps que le label existe et il y a énormément de références. Disons que c'est un label de musique expérimentale au sens large, qui peut finalement, autant concerner des musiques noise que des musiques qui peuvent être parfois, qui ont été un peu plus rock, il y a même eu un peu de hip-hop, mais en tout cas, il y a toujours cette constance comme ça, d'une forme quand même d'expérimentation. Mmh. Et là, effectivement, il y a un lien aussi fort avec le livre, c'est qu'en fait, on a collaboré aussi tous les deux donc dans une sous-série de son label qui s'appelle donc les Live Series. Et justement, l'idée de cette sous-série, c'était de sortir des lives auxquels on a assisté. Parce qu'en fait, justement, dans le cadre de ma thèse à cette époque-là, j'ai enregistré énormément de concerts. Donc j'ai une énorme archive de concerts underground de cette époque-là. Et puis, quand il nous plaisait à tous les deux et que le son était chouette, ce qui n'est pas toujours le cas quand on réécoute les enregistrements par la suite, on pouvait proposer de sortir en cassette. Et donc, on en a sorti quand même pas mal au fil des années. Et donc, c'était aussi les années du livre, quoi. Donc...
Oui, savoir 2011, 2012.
Alors là, le livre se concentre principalement sur des notes de terrain de 2011, 2012. Donc ça fait un peu plus de 10 ans.
Eh bien oui. Attends, on va revenir là-dessus.
Le temps nous rattrape.
Mais dans quel objectif t'es-tu lancé dans ce travail de prise de notes ? On va reparler aussi ça, des prises de notes, mais avec en plus enregistrement audio, vidéo. Pourquoi tu as fait ça en fait ? Est-ce que c'était pour la thèse dont tu nous as parlé ?
Ouais. Alors en fait, j'avais quand même commencé à enregistrer avant. Avant la thèse, j'avais un Zoom H4, je l'ai toujours d'ailleurs, il marche toujours très bien. Donc,
ça dure longtemps.
Voilà, ça dure longtemps. J'avais commencé en fait à documenter la scène. C'est vrai que j'enregistrais les lives. Donc ça, j'ai commencé quand même par ça. Et puis bien sûr, après, il y a eu la thèse qui est venue au même moment. Et l'idée, évidemment, ça a été de... avec ce terrain, justement, avec cette enquête de terrain, de prélever ce que je pouvais, enfin d'observer au sens très large. Donc effectivement, il y a eu des captations vidéo, des concerts notamment, des enregistrements des lives, donc dont certains qu'on avait sortis sur le label, comme je disais juste avant, quelques photos. Des conversations que j'ai enregistrées aussi au dictaphone, un peu à la sauvage, qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre. Et puis il y a eu les notes, effectivement, les notes de terrain elles-mêmes, donc ces fameuses chroniques qui figurent dans le livre et qui se sont vraiment concentrées sur les moments de concert. Et l'idée, c'était que je me rendais à un concert et en fait, du début de mon arrivée jusqu'à la fin, d'essayer de noter tout ce que je pouvais noter. Donc,
Mais alors, tu sais, moi, j'aime bien comprendre. Comment tu procédais concrètement ? Moi, ça me fait halluciner. Est-ce que tu as... Est-ce que tu avais un carnet sur lequel tu notais? Est-ce que tu avais un dictaphone?
Ouais, non, mais excellente question, parce qu'en fait, tu peux faire souvent de l'ethnographie comme ça. Tu as ton carnet, tu prends plein de notes, etc. Mais parfois, il y a des situations où c'est compliqué. Effectivement, quand tu te retrouves dans un concert plongé dans le noir, comment tu prends des notes dans un carnet? Et puis, alors qu'en fait, tu croises plein de gens, tu bois des coups, enfin bon, c'est quand même c'est difficile. Donc, en fait... la manière dont j'ai opéré, c'est j'avais effectivement un carnet, je prenais donc certaines notes, j'enregistrais les conversations, donc ça en fait je pouvais revenir dessus plus tard, et surtout vraiment ça a été les captations vidéo pour tout ce qui est performance qui là vraiment m'ont hyper aidé, parce que ça me permettait le lendemain ou le soir même, quand je rentrais, c'était un gros travail, mais ça me permettait aussi d'analyser les gestes, les sons, etc. Ce que j'aurais pas pu faire comme ça sur un carnet en live. Tu vois, il me fallait absolument une archive sonore ou audiovisuelle, tu vois, à partir de laquelle retranscrire ça. Ah, et après, pour l'observation des événements eux-mêmes, alors là, c'est vrai qu'il fallait faire jouer sa mémoire, parce que, dès que je rentrais à la maison, vite, il fallait coucher sur le papier tout ce que j'avais en tête, les rencontres, ce qui s'était passé, ce qu'on m'avait dit, etc., pour vraiment oublier le moins possible ce qui s'était passé. Quoi.
Ah oui, mais c'est vraiment la question que je me pose, comment tu avais procédé, parce que je peux dire que la lecture est très agréable. Et moi, je suis incapable, par exemple, de parler de musique. Je ne sais pas, je sais pas faire ça. Je ne sais pas décrire une musique. Et là, c'est vraiment très précis. Moi, il y a des concerts... on en parlera, mais pratiquement tous les concerts, je n'ai assisté à aucun des concerts à l'époque dont tu parles dans le livre. Et mais par contre, ça me parle. Je vois très bien de se donner des questions parce que les mots sont bien choisis et tout. Et je me demandais justement, est-ce que tu as fait ça... Enfin, comment tu as pu faire ça, quoi?
Alors, sur la question de la description des concerts... là aussi, c'est vraiment une bonne question, Christophe, parce que, en fait, il fallait là aussi être un peu créatif, au sens où en fait, on a peu l'habitude, évidemment, de décrire ces musiques. Il n'y a pas de jargon stabilisé. C'est pas une musique idiomatique, c'est pas une musique que l'on se transmet en école, au conservatoire, que sais-je. Donc en fait, on n'a pas l'habitude de décrire les bruits. Comment on fait, en fait? effectivement, ça sous-tend l'idée de passer par un vocabulaire qui est assez imagé, qui va plutôt se pencher sur les textures, parfois carrément recourir à des images. Voilà, ça me fait penser à des bruits de l'espace, j'en sais rien. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, tu te raccroches un peu à un imaginaire des bruits d'oiseaux, des machins. Alors qu'en fait, ce ne sont pas forcément des field recordings d'oiseaux, etc. Mais c'est-à-dire que voilà, ça va te faire un peu penser à ça. Parce qu'effectivement, tu vois, c'est dur en fait de décrire ces musiques-là. Donc en fait, c'est ce travail-là que j'ai fait surtout, de la description. Beaucoup plus que de l'analyse par spectrogramme ou des choses comme ça qui existent aussi, tu vois, pour l'analyse d'autres répertoires, genre électroacoustique, etc. J'ai fait ça un peu dans ma thèse, mais là, du coup, pas du tout dans le volet de l'enquête, où là, ça venait mobiliser finalement d'autres formes aussi de référence. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant. Dans cette musique, j'en parle d'ailleurs dans ma thèse, mais c'était il y avait un journaliste, je ne sais plus d'ailleurs son nom là tout de suite, bref, ça m'échappe, mais dans un fanzine peut-être dans Special Interest, qui disait que en fait il rêvait donc c'était un fanzine vraiment de noise, tu vois, et qui disait qu'il rêvait justement qu'on invente un peu une forme de jargon, c'est-à-dire qui pourrait nous servir comme quand on déguste, et c'est ça l'exemple qu'il cite, comme quand on déguste un bon whisky. Avec des notes de vanille, de machin, truc, tu vois, qu'on se retrouve autour de quelque chose comme ça, parce que sinon, c'est pas évident. Et en fait, cette question-là, elle est d'autant plus intéressante qu'elle ressort aussi au moment des évaluations que font les acteurs de l'enquête, tu vois, ouais. les participants au concert, ouais. de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sortent et puis qu'ils commencent à parler de musique, bah, on voit que c'est dur, en fait, d'en parler. Et des fois, bah, les jugements, ils sont très presque à l'emporte-pièce, tu vois, ils sont pas très argumentés. Mmh. Mais parce qu'en fait, il y a pas grand-chose pour auquel se raccrocher, tu vois, pour... c'est pas si simple.
Eh oui. Ah ben, en tout cas, je tiens à dire que c'est très plaisant à lire. Tu vois,
Ah super, ouais, alors que c'était pas si évident.
Bravo. Alors, et, comme tu viens de le dire, il y a des conversations qui sont transcrites. Oh, ma question va te sembler bête ou triviale. Pourquoi avoir changé les prénoms? Tu le signales, hein, tu le dis en début, j'ai changé les prénoms des gens. Moi, pour connaître, alors je suis pas le plus assidu dans ce milieu-là, mais peut-être moi j'aurais aimé reconnaître des gens, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai conservé les noms des artistes, c'est-à-dire les gens ouais. qui se produisent oui. Le soir même, parce qu'en fait, ce sont des personnages publics, en quelque sorte. Donc, c'est logique. Puis, pour l'aspect documentaire, en plus, c'est important, parce que je date aussi les concerts. Mais, enfin, ils sont situés, quoi. Ils ont existé. Et alors, après, et puis, pour, voilà, les organisateurs, enfin, des figures comme ça, il y a certains noms qui sont conservés. Mais les participants eux-mêmes, ils sont quand même dans leur anonymat, au sens où, quand ils viennent débriefer des concerts et avec leurs opinions et, que, et qu'ils sont entre potes, qu'ils ont bu des coups, que, enfin voilà, ils ont, tu vois, il y a une protection des sources, entre guillemets. Tu vois, dans tout travail scientifique, il faut faire ça de toute façon. Tu vois, c'est quelque chose de classique, tu vois, dans des enquêtes sociologiques, anthropologiques, de renommer, en fait, les participants. Et puis, bah, des fois, en plus, les situations peuvent être un peu désagréables. C'est-à-dire que quand il y a un groupe qui est critiqué, bah, après, toi, t'as pas forcément envie que en train de critiquer un groupe, bah, tu figures dans un livre. Enfin, c'est pas top. Donc voilà. Mais par contre, je comprends ce que tu dis quand tu dis que, bah oui, j'aurais aimé les reconnaître. Mais en fait, figure-toi que j'ai reçu quelques messages aujourd'hui justement de personnes qui fréquentaient cette scène à cette époque-là, qui ont acheté le livre hier, qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'ils avaient reconnu quasiment tout le monde. Donc en fait, même avec d'autres noms, des fois, les manières de s'exprimer, les souvenirs, quand ces gens ont participé, ils ont assisté à ces scènes. Ils ont, donc en fait, c'est pas si... puis des fois, c'est pas si important non plus, reconnaître. Ça dépend.
Bon, je reconnais que j'en ai également reconnu quelques-uns.
Ouais.
Quelques-unes. Mais bon, bah, oui, effectivement, peu importe. Alors, voilà, moi j'ai, comme je viens de te dire, je n'ai pratiquement assisté à aucun concert chroniqué dans ce livre. Pourtant, je n'étais pas le dernier, surtout à cette époque-là, ce qui est un peu moins vrai maintenant. Mais à cette époque-là, 2011-2012, j'allais voir pas mal de concerts. Et je crois que tu as un petit peu répondu là-dessus tout à l'heure, mais tu n'as pas chroniqué, enfin dans le livre en tous les cas, tous les concerts auxquels tu participais ne sont pas chroniqués.
Oui, alors il y a plusieurs choses.
Ma question est, quelle a été la base de ton choix? Comment tu as choisi certains concerts plutôt que d'autres?
Ouais. En fait, c'est ça, c'est la question numéro un, finalement. Ouais. C'est que comme je réalisais justement cette enquête de terrain sur la noise, j'ai plutôt axé mon choix de concert sur des concerts noise, ou en tout cas sur des programmations où à un moment dans la prog, il y avait un projet noise. Après, il faut quand même savoir que malgré tout, même en faisant ces choix, on pourrait se dire, l'occurrence est peut-être rare. Des concerts de noise, on n'en voit pas si souvent, etc. Mais en fait, c'était une folie. C'est-à-dire qu'il y avait des concerts toutes les semaines, et parfois plusieurs par semaine. Oui. Donc, ça demandait quand même une espèce de constance dans le travail, tu vois, puis une espèce de motivation aussi quand même, hein, pour pouvoir y aller, quoi. C'était un peu fatigant des fois. Et j'étais fatigante, c'était fatigant pour moi des fois de faire l'enquête, alors que tu vois, t'y vas, t'as juste envie de te relaxer, d'écouter la musique avec les copains, et puis tu vois, pas de, voilà, filmer, faire ceci, cela, tu vois, c'était un peu, parfois un peu éprouvant. Mais en tout cas, ce qui est, je trouve, ce qui fait sens, c'est qu'en tout cas, on peut observer le dynamisme d'une telle scène, rien qu'avec la fréquence des concerts. Et en effet, après, quand je te dis, alors, ils ont été tous chroniqués à cette époque-là, mais par contre, dans le livre, il y a une petite sélection où elle ne, toutes les notes ne figurent pas toutes, parce que, bah, t'as vu, il y en a déjà pas mal. Mais quand même, vraiment, voilà, pour moi, la question du choix, elle concerne d'abord le genre musical, parce que là, si je me retrouvais vraiment à ouvrir à toutes les musiques improvisées, etc., là, vraiment, je m'en serais pas... j'aurais pas pu m'en sortir, je crois.
Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que il y a un moment dans le livre, tu parles de l'Olympique Café. Et tu dis que... Alors, je crois que c'est un concert du non-jazz, de JZ, qu'organise JZ, et tu dis que je suis... en gros, tu dis, je ne suis jamais venu dans cet endroit, donc en 2011. Et moi, ça m'a vraiment étonné, parce que c'est un endroit que je connaissais, moi, dans les années 2008. 2008, 9, 10, je ne sais plus, enfin bref. Mais j'allais voir des groupes tels que Toth de Stéphane Payen ou Jean-Louis d'America Vis, enfin les copains de Jean-Louis qu'on a reçus ici à l'époque. Et alors je me suis demandé, mais effectivement, toutes ces scènes-là que moi j'allais voir à l'Olympique Café, que visiblement, à mon grand étonnement, tu ne connais pas, tu ne connaissais pas à l'époque, étaient plus apparentées au jazz. Donc, est-ce qu'il y avait une... tu t'intéressais pas à ça, c'est incroyable.
Alors effectivement, non, c'est en 2011, la première, 2012, je sais plus d'ailleurs, 2011-2012, enfin, la première fois que je me suis retrouvée à aller à l'Olympique, je connaissais pas cette salle. En fait, j'ai découvert, je crois en 2012, lors d'une conférence à l'EHESS, un séminaire de Venceslas Lisé, qui a travaillé sur l'espace jazzistique à Paris et qui, en fait, lui, avait fréquenté donc tous les lieux du jazz, et disons, sous toutes ses formes, du jazz tradi au jazz avant-garde, aux musiques impro, etc. Et donc, et là, il avait parlé effectivement de l'Olympique comme étant, à un moment donné, un haut lieu, justement, de ces musiques-là, mais ça restait quand même vraiment, jazz, quand même dans des formes... justement, musique improvisée, etc. Mais en tout cas, pas noise. Et c'était quelques années avant. Alors là, j'ai plus en tête, mais en fait, il y a eu une période, visiblement, c'était Venceslas Lisé qui l'avait dit, je crois, dans son séminaire, mais où, justement, alors je sais pas s'il y avait plus rien à l'Olympique, où il y a eu des travaux, ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu un moment de césure, enfin, tu vois. Et moi, par ailleurs, comme j'étais étudiante, tu sais, à cette époque-là, moi, j'avais fait mes beaux-arts à Caen. J'étais pas de Paris, hein, donc en fait, il y a une période où j'étais pas à Paris. Donc, quand j'ai commencé le travail, donc avec le master autour de la noise, en fait, on était en 2010, tu vois, 2009, 2010. Avant, je commençais déjà à voir quand même des concerts de noise, mais par contre, non, j'écoutais pas du tout de jazz et l'impro libre. Je commençais à découvrir, mais c'était pas mon monde, et je venais pas de là d'ailleurs. Je venais pas du tout de là. Moi, en fait, avant, j'écoutais plutôt. Moi, je viens du rock au départ, hein, et puis après des musiques électroniques, tu vois. Enfin voilà, en tout cas, je venais pas du tout du jazz. Ça faisait pas du tout partie de ma culture, de ma culture musicale.
Mais moi non plus.
Si ouais, toi non plus. Ouais.
Mais non. Et ces groupes-là dont je te parle, Stéphane Payen, Toth ou Jean-Louis, c'est plus. Bah, franchement, c'est plutôt plus rock que jazz. Hein. Alors, on va passer du jazz au non-jazz.
Ouais.
Si tu veux bien. Le non-jazz occupe une place prépondérante dans ton livre. Est-ce que tu peux nous, puisqu'on va après écouter un morceau en rapport avec ça, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu comment ça a été, l'histoire, elle n'est pas l'histoire, on va pas faire en quelques mots. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Ouais, alors j'ai plus. Alors, je pense fort à JZ parce que qu'on appelle JZ parce que voilà, j'aurais honte de parler toute son histoire parce que j'ai plus là les détails en tête parce que ça fait très longtemps. Tu vois que j'avais mené l'entretien avec lui, mais en tout cas, c'est une organisation de concerts. Enfin, il organise des concerts depuis très longtemps.
Bah oui.
D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça fera bientôt 20 ans.
Ouais.
Donc c'est quand même une figure centrale, à mon sens, en tout cas parmi les figures centrales de la scène parisienne. En plus, aussi, qui a eu un rôle à la radio, enfin voilà, qui a fait plein de choses, et qui joue lui-même aussi de la musique avec son projet Zara Zomzagram. Qui d'ailleurs, j'en profite, passera dans un mois donc en concert aux Instants Chavirés. Et donc, effectivement, il a une place prépondérante dans le livre parce que, justement, en tant qu'organisateur, il y avait une fréquence. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, attention, j'en parle au passé, mais parce que je ne suis plus à Paris. mais il continue. Mais c'est vrai que, voilà, à cette époque-là, c'était assez fou, quoi. Il y avait une immense fréquence, en fait, deux fois, par semaine, hein, de concerts qu'il organisait. Et donc, je me suis retrouvée quand même fidèle spectatrice de son orga, quoi. Donc, je venais quand même à... Ouais, peut-être pas tous les concerts, mais quasiment, je pense.
Ah ouais.
Quasiment. Et donc, effectivement, sur cette scène-là, donc, noise au sens large, quoi, musique XP, noise, footrack, voilà.
Mmh.
C'était quelqu'un de super important. Enfin, il y avait les Instants Chavirés, il y avait lui, il y avait aussi Computer Mathematics, il y avait aussi des gens qui organisaient par-ci, par-là des concerts. Il y avait Cliton qui était plutôt un peu sur la fin, mais voilà, il y avait plein d'autres aussi acteurs très importants. Mais c'est aussi sa constance, en fait, cette régularité, etc., qui fait que, voilà, il se retrouve aussi de manière aussi présente dans ses notes. Et par ailleurs, j'avais resserré l'enquête justement autour d'une étude de cas, donc ça pour le coup dans ma thèse, non-jazz et Instants Chavirés, dans deux modèles très différents naturellement.
Mmh. Bah, on va écouter un extrait de le non-jazz live série. Est-ce que tu veux en dire deux mots?
Ouais. En fait, effectivement, ça a fait partie. Donc, c'est les live séries que j'évoquais tout à l'heure. Donc, cette collab de Joe et moi sur le label Tens Process. C'est live, justement, où on était. Et là, évidemment, c'était une sorte d'hommage, en fait, au non-jazz qu'on a réalisé. Alors, tout le monde. Enfin, peut-être on pourra débriefer après l'écoute, mais qui est vraiment en lien en fait avec l'orgal. On n'est pas sur un enregistrement de concert, de la performance de concert, mais plutôt de la performance de l'organisateur.
Ah, bravo. On salue Yedrek, on l'embrasse. Et puis, vraiment, bravo à lui. Bravo à lui.
Il reste un dernier live d'ici 10 minutes, Heidi M. Theft Abel qui vient des États-Unis de l'Amérique. N'oubliez pas de laisser votre adresse email.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. Et nous sommes dans les oreilles libres avec Sarah Benaïm, qui nous fait le plaisir de venir nous parler de son livre. Et alors, Chronique du bruit. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Sarah ?
Alors là, on a écouté donc trois extraits. Le premier, c'est Le nom de jazz. Alors déjà, peut-être avant de revenir dans les détails, les trois extraits sont en fait issus donc des cassettes des Live Series. Donc ce sont ces cassettes qu'on a sorties avec Joe du label Tense Process pendant ces années-là en fait, hein, et qui pour intérêt, disons, par rapport à ton invitation ici dans l'émission, d'être directement lié au livre, au sens où en fait ce sont des protagonistes, donc des artistes ou organisateurs qui font partie de cette histoire de cette scène à Paris, et qui ou alors comme le dernier, ou parce qu'en fait ils ont joué à Paris à ce moment-là. Et de cette époque-là, donc en fait, le fait d'écouter d'écouter tous ces extraits nous replonge aussi en quelque sorte dans ces archives documentaires, tu vois, même si on les avait sortis en cassette. Le premier, c'est le nom de Jazz. Donc en fait, c'est le nom de l'organisateur, enfin de l'organisation de concerts qui figure très largement dans le livre, hein, dont les concerts sont justement chroniqués. Et en fait, ce qui était rigolo dans le concept de cette cassette, c'est qu'on avait enregistré en fait les petites séquences où l'organisateur JZ demande aux spectateurs, spectatrices d'apposer leur nom sur une feuille, enfin le truc très DIY, tu vois, pour figurer sur la mailing list, pour être tenu informé justement des concerts par la suite. Et puis comme évidemment il le répétait à tous les concerts, en fait c'était devenu c'est un truc qui une espèce de truc d'entre-soi aussi, parce qu'en fait on savait qu'il allait dire ça nous faisait rire. Enfin, ça fait partie des codes en fait aussi de ces concerts-là, et de ces codes fédérateurs aussi, hein, au niveau social. Le second extrait, c'est Flatform. Donc c'était un duo à l'époque d'Emily et Maëlys, qui s'est séparé en fait par la suite, hein, mais c'était super chouette en fait ce qu'elle faisait. On regrette tous que justement qu'elle n'ait pas continué la musique ensemble, parce qu'elles avaient aussi une belle approche en duo, avec un côté plus noise pour Maëlys et un côté un peu plus pop cadré pour et fragile pour Émilie. Et puis le troisième extrait, c'est France Sauvage, donc un groupe que évidemment les amateurs et amatrices de musique improvisée ont souvent vu tourner en France notamment et au-delà, qui est donc sur la live série volume 6, hein, qui s'appelle Danse traditionnelle des paupières. Et en fait c'était un live à la galerie Plateforme. Donc à cette époque-là, pareil 2011, hein, là de toute façon les trois extraits, on était sur le nom de Jazz, c'est sur plusieurs années, plusieurs concerts, mais Flatform c'était 2010, France Sauvage 2011, donc vraiment à l'époque des notes. Et donc à la galerie Plateforme, voilà, ils avaient livré une performance avec plein de sortes de miniatures électroniques, et c'était très très chouette. Ça nous avait beaucoup plu avec Joe, d'où la sortie cassette.
Sur les live séries, encore un petit mot sur les live séries, hein, est-ce que tu peux préciser encore une fois de quoi il s'agit?
C'est vraiment, en fait, oui, effectivement, pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent qui ne sont pas arrivés au début, en fait, ce sont donc au départ, donc dans le cadre de ma thèse, mais en fait j'avais commencé avant, j'ai documenté donc les concerts underground, parisiens, expérimentaux, etc. J'ai une énorme archive de cette période-là. Et en fait, on a décidé avec Joe du label Transprocess d'en sortir certains, parce qu'à la fois, ces concerts nous avaient plu, et que l'enregistrement était potable et de bonne qualité. Parce que voilà, des fois, t'as adoré le concert, mais quand tu réécoutes, tu dis aïe aïe aïe, là malheureusement, c'est pas exploitable, quoi. Et sorti en cassette en permanence, toujours sous ce format et avec de la couture. Au niveau du graphisme, si tu veux, ce sont que des pochettes cousues avec à chaque fois donc deux couleurs, et donc il y a vraiment ce côté aussi sériel dans le graphisme en fait, hein, le visuel, les artworks des pochettes.
Ouais. Alors pourquoi je te reposais la question, c'est que dans ton livre, on voit bien que tu as filmé beaucoup de concerts. Tu parles même d'autres personnes qui filmaient avec toi, vous échangez ou pas d'ailleurs. Et alors, tiens, moi je travaille dans le cinéma et je voudrais savoir s'il existe beaucoup d'archives. Mais effectivement, je pense que oui. Et ma question, c'est, est-ce qu'on verra un jour un film ou je sais pas quoi sur cette période, sur ces musiques, et qu'en faites-vous de ces archives? Est-ce que vous n'avez pas une idée de faire quelque chose avec?
Alors, la fameuse Rosalie dans le livre, qui elle a beaucoup, beaucoup filmé pendant des années, des concerts, à la fois dans le cas du Sonic Protest d'ailleurs, et puis, pour elle-même. Et elle les avait postés sur un blog qui s'appelait Bipolar. Poodle, je crois. Oh, j'espère que j'écorche pas le nom. Mmh. Et donc voilà, elle les avait valorisés de cette manière-là, mais ça lui demandait un temps fou en termes de montage. Et puis surtout, en fait, il fallait le son d'autre côté. Et après, il fallait l'adéquation entre eux. Et puis des fois, tu sais pas pourquoi, tu vois, il y a des décalages. Enfin bon, ça lui redemandait un travail fou. Mais elle avait valorisé quand même comme ça. On peut retrouver des traces. Et il me semble que le blog existe toujours. Mmh. Ensuite, alors moi-même, j'avais posté comme ça 2-3 vidéos quand c'était aussi l'orga de concert qui m'en avait donné l'autorisation. C'était le cas, par exemple, de Marie, donc des sons paranormaux. Donc c'est une des orgas, bah d'ailleurs qui figure dans le livre, hein, avec le fameux concert de Consumer Electronics. Qui est en fait raconté dans le livre avec ce côté hyper salace sur scène où je me retrouve à slammer cette anecdote bon, ouais. Et en fait ce qui se passe c'est que donc à ce concert là que j'avais filmé mais qui était complètement chaotique, tu vois. Et bien en fait Marie m'a demandé si c'était possible en fait de pouvoir le diffuser, donc je pense qu'elle avait demandé évidemment aux musiciens et tout ça. Et puis bien sûr j'ai dit oui, et donc celui-là en fait vous pouvez le retrouver sur YouTube. Pour le reste c'est vrai que c'est plutôt resté mes archives personnelles, finalement je les ai exploitées scientifiquement mais pas autrement. Pour faire ça c'est comme avec les enregistrements, c'est ça qui est lourd et qui prendrait vraiment du temps. C'est alors déjà, il faut s'interroger sur finalement la direction que pourrait prendre cet archive, tu vois. Qu'en faire? Et puis après, ça veut dire qu'il faut aller recontacter tous les artistes pour obtenir des autorisations. Des fois, c'est très ancien. Et en fait, les gens... ils n'ont pas envie que ces vieilles performances, des fois, ce n'est plus du tout ce qu'ils font. Oui. Tu vois, des fois, ils n'étaient pas contents. Enfin, tu vois, donc ça demanderait vraiment tout un travail et, qui serait chouette, hein, mais je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Ouais.
C'est peut-être pas ton boulot, en fait. Hein.
C'est peut-être pas mon boulot, ouais. Peut-être que ça deviendra autre chose par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est bien de savoir qu'elle existe, cette archive, quand même.
Je signale au quelqu'un d'autre potentiel que ces archives existent. Bon, là, tu vas voir, mes questions vont partir un peu dans tous les sens. parmi les données dont tu parles dans ton livre et auxquelles tu es attentive, dans tes notes, puisqu'il s'agit de notes, il y a le comportement corporel du public, comme tu le précises. En quoi c'est important pour toi? Pourquoi tu focalises un petit peu là-dessus? Qu'est-ce que ça révèle de ces musiques?
Énormément de choses. En fait, ça va faire partie des codes qui, qu'en sciences sociales, on va analyser aussi parce qu'ils sont parlants, ils ont du sens, ils veulent dire beaucoup de choses sur les cultures sur lesquelles on travaille. Les codes qu'on va retrouver dans le milieu, dans le black metal, n'importe quoi, vont être très, très typiques. Puis même, tu vois, dans la rue, même vraiment le plus basiquement possible, on va reconnaître un métalleux, on va reconnaître un punk, on va reconnaître une goth, bref. Donc en fait, il y a surtout dans les musiques populaires, dans la musique underground, il y a des codes comme ça. Alors des fois, ils peuvent être vestimentaires, mais aussi beaucoup, évidemment, ils sont dans les gestes, et parfois dans les gestes d'écoute, qui traduisent quelque chose, en tout cas, des modalités d'écoute. Et dans ces concerts, on retrouve certaines attitudes corporelles, comme par exemple le fait de baisser la tête, de fermer les yeux, donc en fait des sortes de gestes qui montrent une immersion dans le son. Donc ça c'est quelque chose de très clair. Et parfois, sur les formes les plus extrêmes, tu vois, les plus arches, vraiment arches noise, là où tu sens comme ça cette espèce de son qui monte et qui est puissant, tu vois, et qui est fort, etc. Là, tu peux voir certains gestes qui ressemblent un peu, si je devais décrire ça, alors parce que là, je suis en train de le mimer, mais vous ne me voyez pas. Mais c'est comme si, avec la main, on saisissait le son. Je ne sais pas si l'image est parlante, et qu'on le ramenait vers nous en quelque sorte, ou des fois des points levés. Comme ça, cette espèce d'exaltation, dans le son. Donc je dirais que c'est un peu les attitudes principales. Et puis bien sûr, après, s'il y a un peu de rythme ou des boucles qui, même si c'est pas vraiment du rythme, mais recréer une sorte de sentiment de rythme, et bien là, évidemment, on peut avoir les têtes, les hochements de tête, mais ça, à vrai dire, c'est un peu plus classique. Ouais. Mais voilà, mais en tout, c'est un peu moins singulier, disons. Mais disons que voilà, ce qu'on va retenir vraiment, je pense qu'il se de plus singulier, ça va être à la fois ces formes immersives et à la fois cette exaltation.
Mmh. Ah oui. Ouais. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots aussi sur qui sont ces spectateurs, parce que tu es issu des sciences sociales et voilà, je pense que ça aussi, ça te préoccupe. Est-ce qu'il y a une dominante sociale? Est-ce que tous ces gens viennent de milieux disparates ou est-ce que tu as identifié un genre de milieu social? Est-ce que ce sont des pauvres, des bourgeois, tu vois, pour être très trivial? Je crois que tu mentionnes à plusieurs reprises qu'on n'a pas affaire à des gens financièrement très aisés.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. En fait, alors j'ai pas mené une étude du public, tu vois, pour essayer comme ça d'avoir une sorte de représentativité statistique. Ouais, voilà, tu vois ça, c'est pas un travail que j'ai fait, donc évidemment tout ce que je vais dire là, faut le prendre avec des pincettes, puisqu'en fait, je m'appuierai surtout sur sur les entretiens, enfin sur les personnes avec qui je me suis entretenue, et donc évidemment j'ai pas mené 500 entretiens, si tu veux. Donc la représentativité, je sais pas trop, mais après il y a aussi des gens, plein de gens que je connais, un niveau personnel, je sais ce qu'ils font, et même si tu vois, alors il y a des tendances effectivement de plusieurs ordres. Déjà, bon, au niveau du genre, le public est quand même très mixte, plutôt une dominante masculine, mais pas trop. Tu vois, enfin, ça dépend des concerts, mais quand même, il y a beaucoup de femmes. Tu vois, par rapport aux sous-cultures musicales de manière générale, il y a beaucoup de femmes dans le public. Il y en a moins sur scène, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, il y en a pas mal dans le public. Au niveau de l'âge, parce que ça, c'est quelque chose de très, très fort, très appuyé. Alors pareil, ça vraiment, je parle de l'époque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je n'ai pas à continuer à travailler là-dessus, et que finalement, c'était il y a 10 ans, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait un renouvellement générationnel du public, hein, donc ça, je ne peux pas le dire là, mais en tout cas, par rapport au livre, à la sociologie de ce public dans le livre, donc disons, il y a 10 ans, on était sur un public un petit peu vieillissant, très largement trentenaire, et des quadras aussi, mais c'est-à-dire qu'il était un peu vieillissant au sens où il n'y avait pas beaucoup de renouvellement générationnel, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de jeunes, si tu veux, qui arrivaient, de nouveaux jeunes. Hein. Alors qu'en fait, tu vois, bon, j'ai assisté à quelques concerts là récemment à Paris, on voyait quand même vraiment des gens qui avaient la vingtaine. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment resituer, attention, hein, voilà, à cette époque-là. Et qui étaient déjà des fidèles, c'est-à-dire qu'en fait, ça faisait déjà 10 ans qu'ils allaient au concert, etc., tu vois. Par contre, ce qui était très clair, c'est que voilà, trentaine, quarantaine, très peu vingtaine, et très peu au-delà de la quarantaine. Ah oui. Un peu plus sur certains concerts, souvent d'ailleurs plus musique improvisée, mais sur les formes noise, voilà, quelques gens plus âgés, mais quand même vraiment le cœur du public, c'était trentaine, quarantaine. Mmh. Sur après, les caractéristiques plutôt socio-professionnelles, etc. Alors en fait, on remarque plusieurs choses. C'est que, alors, le niveau d'études est souvent haut. Ah oui. Globalement. Mmh. Mais par contre, les positions sociales sont basses. C'est-à-dire qu'en fait, alors là c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent une forme de déclassement, c'est-à-dire qu'en fait, les parents, ils ont fait des études plus longues que leurs parents, mais en fait, la position sociale et le type de boulot, parfois, fait qu'en fait, ils sont moins rémunérés, en fait, hein, dans leur boulot que leurs parents. Ouais, donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et puis, deuxième chose, c'est-à-dire quel secteur professionnel, par exemple, sont concernés. On retrouvait quand même Alors, énormément de gens, en tout cas à cette époque-là, énormément de gens au RSA.
Oui.
Donc, évidemment, c'est, du coup, forcément des formes de précarité, évidemment, hein, pas besoin de rappeler.
Oui.
Donc, beaucoup qui vivaient ouais, des minima sociaux, beaucoup au chômage, tu vois, quand j'ai des petits boulots, des boulots précaires, etc. Donc, voilà, pas en position fixe et tout ça. Beaucoup dans le public. Beaucoup de personnes dans le public, des profs, voilà, etc. Dans la culture, beaucoup d'artistes. En fait, surtout beaucoup d'artistes aussi.
Ah ouais.
Et puis, mais du coup, beaucoup d'artistes, en fait, au RSA, tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça, ouais. Ça va beaucoup ensemble, surtout dans ces scènes, tu vois. Donc, il y a des catégories qu'on ne retrouve absolument pas. Hein, tu vois, personne n'est avocat, personne n'est médecin, tu vois, ça n'existe pas. Et très rares sont, à Paris, attention, et très rares sont ceux qui sont sur les chantiers aussi, tu vois, dans l'autre extrême inverse,
c'est vrai,
tu
vrai.
Vois. Alors, par contre, à Paris, complètement différent, tu vois, dans des scènes noise que tu as retrouvées autre part en France, tu vas avoir beaucoup plus de gens qui travaillent de leurs mains, par exemple.
Yeah.
Mais à Paris, mais parce qu'aussi t'es dans une capitale, enfin tu vois, c'est un peu différent, tu vois, sociologiquement. Mais du coup, voilà, beaucoup moins. Donc il y a quand même vraiment, voilà, absence de profession libérale, tu vois, il y a vraiment des trucs qui n'existent pas. Et puis globalement, les gens, non, gagnent pas beaucoup d'argent.
Ouais. Eh oui, Alors là, t'as évoqué plusieurs choses.
Ouais.
Et une chose, j'étais pas forcément parti pour te parler de ça, mais tu as évoqué la place des femmes.
Ouais.
Est-ce que tu vois une différence entre les spectatrices et les spectateurs? Est-ce qu'il y aurait... voilà, ma question est ouverte. Et,
ouais. Alors, des différences dans sociologiques. Les profils?
Ouais, ouais.
Je sais pas. Alors ça, je saurais pas te dire, parce que justement, comme j'ai pas fait d'enquête du public, je sais pas s'il y a de vraies différences. Je sais pas. Ouais. Ouais, ça, je voudrais
c'est,
pas
dire. Pas forcément une bonne question. On me l'a suggéré, donc c'était pas une question que je.
Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on retrouvait. J'avais ce sentiment qu'on retrouvait au fil du temps de plus en plus de femmes dans les concerts,
ouais, ouais.
Et qu'elles sont vraiment voilà, hyper présentes dans les concerts aujourd'hui aussi, tu vois, quand on y va. Et c'est vrai que c'était sans doute moins vrai il y a 20 ans, où tu vois, il y a quand même un glissement.
Pour être très franc, ce qu'on m'a suggéré de te demander, c'est est-ce que les femmes étaient moins spécialisées, moins dans ces musiques, les auditrices
Non, écoute, enfin, alors, comme j'ai pas fait d'enquête du public, tu vois, évidemment, bon, là, ça veut dire qu'en fait, ce que je vais dire va se baser sur les fameux débriefings qu'on va retrouver justement dans le livre, tu vois. C'est ces discussions, etc. Parce qu'en fait, c'est comme ça que se manifestent les savoirs des acteurs. C'est-à-dire, c'est dans la manière dont on va finalement discuter de ce que l'on connaît, d'avoir des références, etc. Et là, les femmes.
Je crois que c'est pour ça qu'on pose, qu'on m'a demandé ça, quoi.
Ouais.
Par rapport
et
à
tu vois, bah, là, on voit bien que les femmes, t'as vu, hein, parce qu'en fait, j'ai changé les noms, mais j'ai pas changé le genre, tu vois. Donc, et donc, du coup, on voit tout à fait que les femmes participent à ces conversations bah, exactement comme les hommes, tu vois, en disant, bah voilà, moi, moi j'ai bien aimé, tu vois, tel concert, tel truc, oh, bah, je préfère tel album, de trucs. Donc, en fait, ces savoirs sont là. Par contre, on retrouve moins de femmes chez les collectionneurs, par exemple,
okay,
ce type de format-là, tu vois, de formule-là, mais en tout cas... ce sont souvent des spectatrices qui peuvent aussi vraiment être fidélisées, tu vois, suivre des orgas ou aller aux instants chavirés fréquemment. En fait, c'est des publics comme ça très, ouais, très fidèles. Et donc, bah, évidemment, les femmes aussi, quoi. Hein, et donc,
En tout cas, ce sont des gens très, très érudits.
Oui.
Ça, parce qu'on voit bien que les gens qui viennent à ces concerts de noise, de musique bruitiste, vont également aux trucs de musique acousmatique, dans les lieux institutionnels, tu vois.
Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. J'avais fait une petite enquête avec quelques amateurs, justement, autour de leur collection, etc. En fait, oui, c'est vrai qu'on va retrouver une forme d'érudition.
Mmh.
Et on va même retrouver un truc qui est une espèce de boulimie culturelle. Ça, c'est quelque chose aussi que j'avais trouvé intéressant. Ouais. C'est-à-dire que avec des trucs, des fois, complètement dingues. C'est-à-dire des gens qui sortent tous les soirs et sont capables d'un éclectisme très très prononcé. Donc effectivement, aller voir un concert, donc je sais pas, le mardi, aller voir un concert de musique traditionnelle de je sais pas quel pays, tu vois, et puis en fait le lendemain, aller à un concert de noise, et puis le jour d'après, aller voir un concert, tu vois, comme tu mentionnais, un concert d'électroacoustique, et puis peut-être qu'en fait le samedi, ils vont aller dans une soirée techno peut-être. Ouais. Enfin, tu vois, en tout cas. Alors attention, des fois les gens font pas tout en même temps et puis ça dépend lesquels, mais t'as vraiment certains profils qui sont et puis qui vont peut-être beaucoup voir de danse aussi ou d'autres ou être fan de cinéma beaucoup hein dans la scène sont aussi dans le cinéma intéressés par le cinéma expérimental donc il y a quand même des connivences en plus évidemment entre médiums. Puis la performance, tu vois, ils ont le tour de la performance.
Oui, je crois que dans le livre, il y a le cas d'un gars qui va voir 4 concerts dans la soirée. Quoi.
Exactement. Ça, c'est un exemple emblématique et qui dit c'est super, j'arrive enfin. Alors, je sais plus pour quel concert c'était. C'était peut-être à Confluence, un des concerts à Confluence. Et il arrive, il me dit ouf, j'ai réussi à venir parce qu'en fait, là, c'était sport. Et je lui pose la question bon, qu'est-ce que tu as fait ? Enfin, je sais plus exactement comment je demande. Et puis là, effectivement, il m'expose que, en fait, avant d'arriver, alors qu'il est peut-être 21h30, en fait, il a fait 4 concerts, quoi. Des trucs l'après-midi, des trucs que tu vois, tous les horaires, je sais pas, et tu te dis, mais c'est dingue. Une sorte de planning, des plannings de ministres, mais tu vois,
Alors, je te parlais de la situation sociale, globalement, des auditeurs de ces musiques, mais peut-être on peut dire un mot sur la situation sociale des acteurs de cette musique. Je crois que tu mentionnes que certains musiciens ne sont pas très favorisés non plus. Certains touchent comme les auditeurs de l'ERSA ou travaillent à côté, quoi. Je crois que ça.
Ouais. En fait, c'est une constante, c'est-à-dire que dans ce milieu-là, dans les scènes noise, c'est extrêmement rare de gagner sa vie, tu veux, de la musique. Enfin, tu peux avoir des revenus de la musique, effectivement, puis tu le conjugues avec le RSA. Après, certains y arrivent quand même, mais c'est rare quand même. C'est rare. De réussir, en tout cas, à vivre confortablement et à 100% de son activité musicale, c'est un peu rare. Et souvent, du coup, il faut en même temps glisser sur d'autres scènes ou alors dans des activités de médiation, peut-être. Que tu fais de la musique, enfin, tu te sers quand même de tes compétences de musicienne, musicien, mais tu fais aussi de la médiation, par exemple. Tu vois, tu bosses, je sais pas, tu fais des petits ateliers avec des scolaires ou j'en sais rien. Mais c'est compliqué quand même aujourd'hui de vivre que de ça sans avoir un revenu complémentaire du genre un RSA ou tu vois. Ou alors tu vis, enfin en tout cas en vivant à Paris, tu vois, avec aussi ce que ça implique, les logements, etc. Parce qu'après, bien sûr, tu vois, t'as aussi des gens qui vont en France vivre, bien sûr, dans des trucs un peu plus, communautaires, ou vivre à la campagne, où ça coûte vachement moins cher aussi, tu vois, de vivre là. Et peut-être là, tu t'en sors mieux, mais bon, c'est pas évident.
Du coup, est-ce que ces musiques-là,